Mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Mais tu connais même pas les armations de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Mercredi, que vous connaissez bien. C'est une émission effectivement à destination des enfants, mais ne sommes-nous pas tous des enfants ? Effectivement, puisque l'idée n'est pas de s'adresser aux enfants nouveau-nés, mais plutôt à l'enfant qui sommeille en nous et qui ne sait pas forcément ce que c'est le théâtre, ne sait pas forcément ce que c'est l'égyptologie, ne sait pas forcément ce que c'est un loup. Voilà, donc dans cette émission, on va aborder toutes ces thématiques-là. Et on va commencer avec un tout petit peu la définition de ce que c'est le théâtre et l'illustration de ma grand-mère qui en parle.
La mise en corps d'un texte et en voix d'un texte et l'occupation d'une scène. Ou d'ailleurs, enfin ça peut être ailleurs, théâtre.
Tu sais Salima, quand j'étais jeune j'ai fait du théâtre. Un petit théâtre de campagne, mais j'avais souvent les meilleurs rôles. Oui. Et j'aimais beaucoup.
Quel rôle t'as fait que t'aimais bien ?
Je me souviens qu'on avait joué une pièce, La Chambre Mauve. La Chambre Mauve, oui. Mais je ne me souviens pas de paroles. Bien sûr.
C'est quel rôle ?
Ben, je fais le rôle principal. Il y avait trois actes. Et je me souviens que on m'interpellait beaucoup parce que j'avais beaucoup de mémoire. Et que pendant pendant la pièce, quand on jouait, ben, il y en avait qui ne se rappelaient plus de leur rôle. Et moi, je soufflais. C'est vrai, hein ? Je soufflais, je savais à la fin la pièce entière, par cœur, à force de la répéter. Et voilà.
Et tu jouais devant qui ?
Devant le public, un public, devant les gens, ça ne fait rien. Joseph, il a dû me voir des fois, peut-être, je ne sais pas, je ne rappelle pas, de toute façon. Moi, j'avais 15 ans, 16 ans à l'époque.
Hein. Ah oui.
Voilà.
Tu avais des beaux costumes ?
Ah ben oui, on louait des costumes à Nantes, on allait les chercher, suivant le rôle qu'on avait.
Tu faisais une pièce par an ?
Oui. Et voilà.
J'ai mercredi. Pourquoi ? Parce que je suis... un super papy, il est papy. Ils veulent tous me faire danser.
Shoulder to shoulder, I know it could be easy, yeah. Now keep your head up, talk to me, I know it could be easy, yeah, yeah. What would the world be if we let it be just fine? What would a smile be if not a tear sometimes? Sister, sister, I know it could be easy, yeah. Now keep your head up, talk to me. I know it could be easy, yeah. What would the world be if we let it be just fine? What would a smile be? If not a tear sometime. I'd rather fail on my own turf and call it a lesson learned. I'd rather fail on my own turf than follow you in your bird. I'd rather fail on my own turf and call it a lesson learned. I'd rather fail on my own turf than follow you in your bird. Keep your head up, talk to me.
Et ce choix de musique, c'est une musique du groupe Seinabosse, un groupe suédois avec le titre Easy, nous vient de Théo. Théo qui est donc en service civique à l'Armada, qui nous a fait une petite sélection pour aujourd'hui de musique nordique, comme il dit. Et du coup, ce morceau-là, c'était l'idée de vous communiquer la chanson qu'il écoute quasiment tous les matins, que vous écoutez du coup l'après-midi, parce qu'il a un groove de bastard. Enchaînons tout de suite avec toute une équipe, trois classes en tout, d'enfants de maternelle, donc des enfants entre 2,5, 3 ans et 5 ans, à qui on a demandé de parler du loup. Qu'est-ce que c'est qu'un loup ? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un loup ?
La loulou l'a attrapé la loulou. Après.
Bah moi, quand il était dans ma maison, et mon papa et ma maman, il a coupé sa tête.
Donc, quand ils mangent les loulous, ils mangent des enfants beaucoup.
Aussi, après, ils sortaient de leur cachette.
Chasseur.
Oh,
il a peur des chasseurs, il a dit.
Il a peur des chasseurs.
Oui, Teddy.
connais pas Mercredi? Ben enfin, c'est trop bien. C'est tout.
Comme me le faisait préciser Justine, c'est vrai que là on a écouté les loups, j'avais envie que vous écoutiez ça de manière plutôt vierge, découvrir un peu l'univers des loups des enfants, mais c'est vrai que voilà, il y a eu un cadre spécifique pour que j'aille enregistrer tous ces sons-là. En fait, c'est dans le cadre du festival Travelling. Donc le festival Travelling, on a souvent des échos comme ça dans Mercredi parce qu'on les aime vraiment bien. C'est un festival qui organise, qui est organisé tous les ans sur le cinéma. Et en fait, toute l'année, ils font des actions. Et notamment, cette année, ils font une action avec justement une école maternelle et une école primaire sur la question du loup. Il y a un intervenant qui vient dans l'école pour faire des films d'animation avec des enfants de primaire. Et en fait, l'idée, ce sont les enfants de maternelle qui font le son de ce film d'animation. Et puisqu'on trouvait ça plus amusant, on s'est dit, tant qu'à faire de faire le son du film d'animation qui va durer très peu de temps au final, autant essayer de faire une petite création sonore sur ce que c'est le loup. Voilà, donc c'est ce que ça a donné. Et si vous voulez avoir des informations sur les films qui vont être tournés, parce que ce sera tourné à la fin de l'année, quoi, on vous en reparlera dans Mercredi. Voilà. Du coup, là, on va retrouver tout un autre univers. On va retrouver l'univers du Musée des Beaux-Arts. Dans chaque ville, dans des villes assez importantes, il y a des musées des Beaux-Arts. Et à Rennes, il y en a un qu'on aime vraiment bien. On a été retrouver Odile, qui nous a présenté des pièces. Et là, on va retrouver une pièce d'artisan égyptien. Voilà, on espère que vous aimez l'Égypte.
Bonjour Salima, je suis Odile. Je voulais te parler de mon musée, le musée des Beaux-Arts de Rennes. Un musée qui a des collections très variées de peintures, de sculptures, de multiples siècles allant jusqu'à nos jours. Et j'avais envie de te parler d'une section un petit peu à part, qui est la section archéologique, et plus particulièrement d'un secteur que j'aime beaucoup et que les gens que je reçois apprécient beaucoup, qui est celui de l'égyptologie. C'est-à-dire cette science qui va s'intéresser à cette population qui vivait en Égypte ancienne à partir des objets qui ont été fabriqués par cette population et ramenés en France dans nos musées. Nous sommes devant un objet qui a une forme rectangulaire, un petit peu irrégulière sur le dessus, qui est composée à la fois d'un texte hiéroglyphique et qui représente en gravure deux personnages agenouillés, des personnages masculins qui ont une très belle coiffe tressée. Ils sont torse nus, ils portent tous les deux un collier et ils sont habillés d'un pagne long qui est une parure masculine courante au Nouvel Empire. Cet objet a été ramené par un chercheur très important en égyptologie qui s'appelait Frédéric Caillot et qui a vraiment étudié, exploré l'Égypte dans des endroits parfois très retirés et qui a étudié d'une manière vraiment scientifique cette civilisation. Et il a ramené dans ses bagages quelques objets, et celui-ci fait partie justement de cette collection. Cet objet est directement lié à un grand pharaon d'Égypte qui s'appelait Ramsès II, qu'en général beaucoup de monde connaît. Le règne de Ramsès II se situe entre moins 1304 avant Jésus-Christ et moins 1213. Et ces deux personnages qu'on ne peut pas différencier l'un de l'autre, sont pourtant des hommes distincts. Et on l'apprend grâce au texte hiéroglyphique qui les accompagne, un texte composé de signes tout à fait courants qui vont parfois nous montrer des personnages, parfois nous montrer des animaux. Alors, il s'agit d'une écriture assez complexe qui est composée à la fois d'idéogrammes et puis de signes qu'on appelle des signes sons, qui se regroupent entre eux pour former ce qu'on pourrait faire correspondre aux mots dans notre langage ou dans notre écriture. Comme je le disais, il est impossible de différencier ces deux personnages parce qu'ils sont représentés exactement de la même manière. La même taille, la même forme, le même vêtement. Et ce texte nous dit que pourtant il s'agit pour l'un de Neferabou et pour l'autre de Maninaktouf. Des personnages pas forcément extrêmement connu, sauf que malgré tout, on a des traces de ces deux personnes, d'un en particulier, parce qu'on a appris par ce texte qu'ils avaient travaillé sur des tombes. Ce sont des artisans, des peintres de renom, et tous les deux ont justement participé au décor de la tombe de Ramsès II, le grand pharaon, ainsi que de son épouse royale, la reine Néfertari. Il quitte donc l'anonymat grâce à ce texte. Il y a d'autres stèles qui font référence à ces deux personnages. Alors, Néferabou explique dans l'une des stèles qu'à un moment donné de sa vie, il a perdu la vue. Et il est devenu aveugle et il a pensé en devenant aveugle que c'était le résultat de son impiété. Il avait dû faire preuve de manque de respect vis-à-vis des dieux et c'est de cette manière-là les dieux le punissaient. Et il relate ensuite le fait d'avoir retrouvé la vue. Alors tellement heureux d'avoir retrouvé la vue, il a fait réaliser plein de petits blocs de pierre comme cela, qui peuvent être des stèles, où il remercie justement les dieux de lui avoir redonné la vue et de lui avoir pardonné d'une certaine manière. Donc c'est aussi le rôle de ces stèles, hein, c'est d'inscrire un texte qui peut être un remerciement aux dieux, qui peut être aussi un apport d'offrande aux dieux. Il y a un système de troc avec les dieux. On leur fait des cadeaux, on leur fait des prières, on leur fait des offrandes et on pense qu'en échange, ils vont apporter leur protection sur les humains, sur les tombes par exemple.
Moi, ce qui me semble rigolo, c'est que dans la culture française artistique, ce qui me semble un des éléments qui met fin au Moyen-Âge, à la Renaissance, c'est le fait que l'artiste signe et du fait qu'il soit reconnu, non plus en tant qu'artisan qui fabrique au nom d'un atelier ou voilà, pour une commande. D'un coup, le fait qu'on identifie que cette personne-là a fait ça, ça lui donne son statut d'artiste. Et du coup, de savoir que dans l'Égypte ancienne, en au moins 1300, on valorisait l'artisan en tant qu'artiste, ça veut dire quoi dans l'histoire de l'art ?
Alors, en Égypte, c'est un petit peu particulier parce que l'artiste, le nom artiste, le statut d'artiste n'existe pas à part entière. Même s'il réalise des œuvres absolument magnifiques, d'une qualité plastique exceptionnelle, l'artiste, c'est un artisan, c'est-à-dire une sorte d'ouvrier qui a une qualité, c'est qu'il va travailler pour l'éternité. Il va représenter les rois, il va travailler sur les tombes, il participe justement à l'éternité de ses défunts, mais en tout cas, il n'est pas reconnu en tant qu'artiste, juste en tant qu'artisan de grande qualité, et à ce titre-là, on pourra voir des traces de son passage sur Terre. Mais ça se limite vraiment à ça.
Et cette stèle-là, elle a été retrouvée où, du coup ?
Elle a été retrouvée dans la vallée des Nobles, qui est une vallée qui se trouve tout près de la vallée des Rois et de la vallée des Reines, un lieu dans lequel on a trouvé des tas de petites tombes, des tombes un petit peu modestes, mais justement dans lesquelles les artisans avaient pu montrer aussi leur art, parce qu'ils pouvaient très bien travailler sur la réalisation de leur propre décor. Donc c'est un endroit où on a trouvé beaucoup, beaucoup d'objets et parfois des villages d'artisans qui étaient accolés à ces sites.
Donc vous pensez que peut-être à cette époque-là, il y avait comme des ateliers d'artisans ouverts pour les personnes qui pouvaient venir dans leurs ateliers voir ce qu'ils faisaient ?
C'est difficile de le dire. Hein. On ne connaît pas cette notion d'accessibilité au public, d'accessibilité à la création. Je pense qu'elle n'était pas tout à fait similaire à ce qui peut se passer maintenant. Les artisans étaient dans des groupes d'artisans avec des chantiers. D'ailleurs, on a retrouvé un morceau de pierre. Ça s'appelle un ostracon. Les morceaux de pierre étaient des fragments de pierre qui servaient de brouillon aux Égyptiens. On parle souvent du papyrus. Le papyrus, c'est une matière quand même compliquée, un petit peu prestigieuse, qui va servir vraiment au texte officiel. Mais quand les contremaîtres ou les artisans avaient besoin d'écrire rapidement, ils utilisaient à ce moment-là une écriture cursive, eh bien, ils prenaient des bouts de pierre qu'ils trouvaient dans le sol. Et ce sont des témoignages voyage extrêmement intéressant. Et justement, au musée du Louvre, il y a un ostracon qui fait référence à un registre de présence des artisans. Et on explique que Néferabou a été absent. Alors, il a perdu son frère un jour, une autre fois il était malade. Et ce sont des témoignages extrêmement touchants parce que ça nous met vraiment en lien avec ces personnes qui allaient travailler comme nous tous les jours et qui pouvaient être absents quand ça n'allait pas ou pour des raisons personnelles. Et ça nous rapproche vraiment intimement de leur vie, de leur quotidien.
تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل
Écoutez, mercredi, on danse, on s'amuse, on se fait plaisir. Et c'est bon pour la santé. Oh là là.
Merci encore à Odile pour nous avoir ouvert les portes de l'égyptologie. Sachez qu'il y aura d'autres épisodes comme celui-ci. On ira découvrir les autres pièces du Musée des Beaux-Arts. Alors, le morceau qu'on a écouté à la suite, c'était un morceau du groupe Soap Kills, qui est un groupe libanais, donc un groupe fondé à Beyrouth. C'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été créé en 97-98 et qui a terminé son existence en 2005. Les membres font aujourd'hui encore de la musique. La chanteuse, notamment, vit à Paris. Elle fait partie d'autres formations. Mais voilà, moi, j'aime bien ce genre de musique. Le groupe chante en arabe. Ça, voilà, c'est entraînant. Ça fait du bien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Justine, à la technique, qui a encore une fois assuré comme une chef. On espère que vous allez bien et que ça pète la forme chez vous et que vous allez passer un bon après-midi. Salut, salut!
Mercredi.
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 Mercredi.